Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
S'il vous plaît, mademoiselle, merci. Avec les chips.
Santé, Mario!
Je crois que tout simplement, je l'ai fait voler en éclats et j'ai explosé son jeu.
You cannot be serious!
Il est espagnol, Rafael Nadal!
Hello les légendes et bienvenue pour notre 62e épisode. On se retrouve comme chaque mardi pour vous faire vivre les coulisses du circuit ATP et WTA à l'aide d'anecdotes, d'histoires croustillantes et de parcours inspirants. On enchaîne comme prévu avec un coach pour le moins atypique qui a évolué sur le circuit un certain nombre d'années aux côtés de Steph Robert, Gilles Simon ou encore Corentin Moutet. Il s'agit de Ronan Lafay qui a mis au point une pédagogie, un concept en place il y a maintenant 30 ans. Axé sur le mental, le relâchement, la respiration. Il nous en parle en détail avec passion, vous allez le voir, c'est un régal. Si vous avez aimé l'épisode avec Steph Robert, vous allez vraiment kiffer cette suite, puisque c'est l'envers du décor et croyez-moi, c'est passionnant de découvrir ce qui se cache sous le capot de la Chevrolet du baroudeur, le plus atypique du circuit. Pas d'inquiétude, le son s'améliore au bout de 2 minutes, le micro de Ronan était planqué dans son pull. Ça va beaucoup mieux dès que je lui en fais part, et pareil pour sa caméra qui se règle enfin au bout d'1 heure d'échange. Si vous êtes sur YouTube, je vous demanderai un chouïa de patience. Pour aller plus loin dans la gestion de votre mental sur le cours, je suis allé vous chercher un prépa mental / sophrologue pour notre 4e masterclass avec Gilles Tarraquois, qui a travaillé pour la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes, après qu'un certain Gilles Moreton, actuel président de la Fédé, soit allé le chercher pour coacher les jeunes pépites. À travers ce nouveau cours d'1 heure, Gilles nous fait une initiation à la sophrologie où je vous sers de cobaye, c'est cadeau. Vous n'avez plus qu'à lancer l'audio ou la vidéo et suivre le son de sa voix pour poser votre respiration et gagner en sérénité sur un court de tennis. Cette nouvelle masterclass va te permettre de mieux gérer ton stress en match, en compétition dès que tu fais des points, de gérer la peur de gagner quand la victoire est au bout de ta raquette et de reproduire ton niveau de jeu de l'entraînement pour jouer aussi relâché en match. Tu vas donc apprendre à te servir de la respiration pour gagner en relâchement et en plaisir sur le cours, c'est tout bénef. T'as accès à ce nouveau cours au format audio et vidéo et je t'ai également concocté un support écrit pour le suivre. Pour t'abonner et recevoir une nouvelle masterclass tous les 15 jours, t'as le lien juste en dessous en description. Et si tu veux avoir accès à une seule masterclass en particulier, c'est aussi possible. Il suffit de m'écrire à max@tennislegende.fr. Place maintenant à notre 62e épisode avec le passionné et passionnant Ronan Lafay. Bonne découverte et bonne écoute à tous. Alors Ronan, déjà, quel est ton surnom ?
Quel est mon surnom ? J'en ai pas.
T'en as pas ? Personne te donne un petit nom ?
Non, non. Pas encore. Peut-être toi ? Ça sera toi le premier, peut-être.
Alors, Roro. T'es moniteur de tennis, sophrologue, praticien en PNL et yoga. T'es connu pour avoir entraîné Steph Robert, notre dernier invité du podcast. Donc, c'est un plaisir de faire cette suite avec toi. Vous avez fait un sacré bout de chemin ensemble, puisque de moins de 6 à 20 ans, tu l'as emmené top 100 à plus de 30 ans. Tu pourras nous raconter juste après. Tu as aussi bossé mentalement avec Gilles Simon. Tu as sorti 2 livres, Soyez pro, la méthode pour oser en 2008 et Tennis, un nouveau coaching pour gagner en 2012. Tu bosses aussi dans la voile. Tu interviens dans plusieurs domaines d'activité. Tu pourras nous en parler plus en détail. Dans l'immédiat, est-ce que tu veux compléter toi-même ta présentation, Ronan, et m'aider un petit peu sur ce coup-là ?
Écoute, Max, je vais t'aider. Déjà, je ne me suis pas occupé de Steph quand il était à moins 2. Je me suis occupé quand il venait de gagner le crit. Donc, il était à moins 30. Il allait monter numéro 30 français. Voilà. Donc, ça, c'était en 2001. Il n'y a pas de praticien en yoga. Je suis praticien en hypnose. Voilà. Okay. Mais je pratique le yoga depuis 30 ans. J'ai écrit 2 ouvrages, effectivement, et un ouvrage collectif, Révolution intérieure, avec 76 coachs, pendant le dernier confinement, qu'on a auto-édité pour un colloque qui va se réaliser en 2022. Voilà.
D'accord.
Voilà l'actualité.
Et je pense que tu as un micro sur le… Mais il doit être dans le pull. Est-ce que tu peux peut-être le
ouais,
faire
pardon.
Sortir pour une meilleure qualité?
Ouais. C'est mieux là?
Ah ouais, c'est 15 fois mieux. Impeccable.
Ok. Ouais, il était dans le... Ou alors je vais l'ouvrir. Voilà.
Ouais, ouvre un petit peu. Comme ça, il ne frotte pas sur le... Impeccable.
Ok. Génial. Impeccable.
Donc, tu es le créateur d'une méthode qui s'appelle Soyez Pro. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que tu peux nous dire en quoi ça consiste?
Alors, je suis le créateur, mais pas d'une méthode. En fait, ça tombe bien que je puisse t'en parler parce que, en fait, c'est au tout début de l'aventure. Quand j'ai créé en 2008, mon éditeur, c'était Amphora. Et puis, il y a un moment donné, il faut trouver un titre. Et à l'époque, je suis tombé un peu dans le panneau, mais bon, j'en savais trop rien. Et donc, le patron d'Amphora m'a dit ça serait quand même bien de mettre méthode et tout. Et en fait, ça me traîne comme un boulet depuis ce temps-là. Donc, ça fait 2008 que ça dure. On aura le temps d'en reparler, mais moi, le mot méthode, il ne me va pas du tout parce que je n'ai pas de méthode pour la gagne hein, et pour performer. C'est bien plus complexe que certains veulent bien le dire. Donc, voilà, je n'ai pas la prétention d'avoir une méthode. Mais D'accord. On aura le temps d'en reparler, je pense.
Et du coup, est-ce que tu veux nous dire comment tu es arrivé à cette pédagogie, on va dire,
oui.
qui est peut-être qui sort un peu du cadre quand même, quel constat tu as fait et comment tu as créé du coup cette pédagogie? Est-ce que vraiment tu peux nous en parler, quoi, Soyez Pro?
Ouais, alors moi en fait, ça part d'un. Moi j'ai commencé le tennis assez tardivement, j'avais 20 ans.
Ouais.
Je suis monté assez rapidement, j'ai été 32 l'année d'après ou l'année d'après, j'ai mis 2 ans peut-être pour monter à 32, je ne sais plus, bref. Et en une année, j'ai fait 32-15-3 et moi, je voulais être enseignant de tennis. Et j'ai mis 4 ans pour faire 15-3-15-2. Je pense qu'en France, je suis parmi les tout bons. En m'entraînant tous les jours comme un professionnel, en faisant de la muscu, en faisant de la sieste qu'il fallait, l'entraînement du matin, de l'après-midi. Donc,
t'avais quel âge à ce
moment-là? J'avais 25, 26, 27. Ouais, ça a été laborieux, très compliqué. Je pense qu'à un moment donné, je me suis même dit à un moment que je n'allais pas y arriver, quoi.
Et tu faisais quoi en parallèle?
Je ne faisais rien en parallèle. J'avais décidé de faire ça. C'était un rêve qui était en moi et j'avais tout arrêté pour faire ça. Et du coup, à l'époque, hein, c'est prof de tennis, ouais.
D'accord, ok.
Ouais, c'était un rêve. Du coup. Moi, mon rêve, c'était de voir des gens en short, en survêt et de me dire, c'est quand même une vie cool, quoi. Quelle liberté, ouais. Tout. Voilà, c'était, moi, à cette époque-là, c'était vraiment c'était ça. Et du coup, à l'époque, ça, on est dans les années 90, je dirais, peut-être même avant. Et le mental, si tu veux, ça n'existe pas, quoi. Donc, moi, il y a un monsieur qui m'interpelle, en tous les cas, son livre, c'est Timothy Galloway, que j'apprends par cœur, que j'essaye de comprendre et tout. Puis, à force de travail et tout, bon, voilà, la roue tourne et je suis enfin 15-2. Et l'année d'après, j'obtiens le DE parce que, voilà, c'était ma passion. Et voilà, donc ça, c'est la période un peu compliquée de ma vie.
Ouais.
Le moment où finalement, je fais un peu comme tout le monde et je fais des gammes et je fais du physique. Et puis, c'est ce que je mets dans mon bouquin, c'est travail plus rigueur égale réussite. Et bon, voilà, là, je découvre qu'en fait, ça ne marche pas, quoi.
Et juste le livre de Timothy Galloway, là, de In a Game of Tennis, en quoi est-ce qu'il t'a particulièrement marqué et qu'est-ce qu'il t'a apporté à ce moment-là?
Je pense qu'à l'époque, c'est le seul à parler de ce qui se passe dans la tronche, quoi. C'est le seul qui met des mots sur moi, ce que je vivais. Et tout d'un coup, je ne me retrouve pas seul. J'avais été voir des enseignants en me disant, voilà, j'ai plus qu'un classement à choper. Tu ne peux pas m'entraîner et tout, voilà les problèmes que j'ai. Et moi, je crispais, j'avais des crampes alors que physiquement, j'étais un avion. Voilà, non, mais c'était ahurissant. Et comme je voulais avoir ce diplôme, si tu veux, je me mettais une pression de dingue.
Ouais.
Et j'étais dans un monde de solitude terrible, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. C'était catastrophique.
Tu l'as lu en anglais puis, parce qu'il n'est pas traduit. Hein.
Oh, si, c'était Bernard Cassen qui l'avait traduit à l'époque.
Ah oui, le papa de Julien. Ouais.
Exactement, exactement. Donc voilà, c'était un peu ce bouquin, ça m'a sauvé un peu la mise. Et du coup, après, je me suis mis à chercher et à chercher. Et puis, en fait, après, moi, je suis devenu entraîneur en club. J'ai eu un club dans, deux clubs dans ma vie, le TC Bièvre dans l'Essonne et le TC Ballainvilliers. Pendant une année, je faisais les deux. Puis après, j'ai fait que le TC Bièvre. Et j'ai découvert à ce moment-là que les joueurs, ils étaient comme moi, quoi. Qu'ils étaient tendus, qu'ils avaient peur en match. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, mais est-ce que je continue à entraîner comme moi, je me suis entraîné, c'est-à-dire pour ne pas performer? Ou alors, je me pose des questions, je me forme, et puis, à un moment donné, il faut que ça change, quoi. Mmh. Et donc, je me forme à la sophro, tout ce que tu as dit. Et puis, à un moment donné, je coupe très fort. Et je me dis, OK, maintenant, c'est le moment de faire ce que tu sens, de tenter des expériences. Et moi, j'entraînais en même temps à HEC, donc okay. Une école de commerce, une grande école de commerce à Jouan-Josas.
Ouais.
Et là, j'ai fait 10 ans où ça a été… J'ai expérimenté des moments où je disais rien et je leur demandais de faire des matchs, par exemple, et je voyais ce qui se passait. Des moments où on faisait que de la sophro, puis après, ils allaient sur le terrain, ils jouaient, puis je voyais ce qui se passait. Bref, ouais. J'ai expérimenté plein de choses. Et au fur et à mesure, je commençais à avoir des liens dans tout ça.
Ouais.
Quand tu te lances dans une nouvelle pédagogie, un nouveau concept, forcément, tu es pris pour un dingue. Forcément, on dit, c'est super, mais maintenant, il va falloir avoir des résultats. Et puis, assez rapidement, y a un joueur qui s'appelle Guillaume Pichot, qui était à 15-5. Puis un jour, sa maman vient me voir en me disant, il ne peut plus jouer de la main droite. Sa main droite vient froide et blanche. Ouais. Et donc, il doit arrêter le tennis. Puis elle me dit, je pense qu'il n'y a que toi qui peut l'en sortir. Et puis, le gamin, il avait 15 ans à l'époque. Et je lui propose de venir à l'école de tennis, faire 3 entraînements par semaine en jouant de la main gauche.
Ouais.
Et puis le mec, en un an, il monte à 15-2 de la main gauche. L'année d'après, il joue à 2 mains, il bricole un peu, tac-tac. Il monte à 4. L'année d'après, il est à 0. Et puis, il se retrouve moins 4 l'année d'après ou dans la même année. Je crois qu'il y avait des… Voilà. Donc, en fait, en 4 ou 5 ans, le mec, il passe de non classé à moins 4. À la fin… Il joue avec la main gauche en bas, il joue à 2 mains des deux côtés, il serre de la main droite, il volaye de la main droite, il smash de la main droite et il joue tous les coups du fond du court à 2 mains avec la main gauche en bas. Voilà.
Yann Michael Gambi.
Le mec improbable, c'est un truc de malade.
Un traditionnel rappel pour nous filer un coup de main qui, je t'assure, fait la diff sur le long terme. Mets-nous un like dès maintenant si t'es sur YouTube, 5 étoiles si t'es sur Apple Podcast et un commentaire sympa sur les deux, c'est du fuel pour nous pousser à continuer de te régaler et avoir des invités de renom. Récupère ensuite gratuitement les 4 secrets de statisticien de Fabs Barreau pour grappiller de précieux points dans ton jeu grâce à la stat. T'as un autre lien juste en dessous pour découvrir les 14 conseils du prépa mental Jean-Philippe Vaillant. Ces deux formations sont offertes, c'est notre tournée, c'est cadeau.
Et
est-ce que tu penses que tu es tombé sur un ovni à ce moment-là ou que vraiment ta pédagogie fonctionne avec le plus grand nombre, tu vois?
Ah ouais, je suis pas tombé sur un ovni du tout, du tout. C'est justement, c'est à un moment donné où en fait je m'adapte aux joueurs et on trouve des solutions ensemble. Et à partir de là, ça ne fait que me. En fait, ma vie à partir de là, du moment où en 96, je décide de changer de paradigme, hein, vraiment, je vais de succès en succès et en surprise en surprise. Et là, ma vie devient un rêve éveillé, quoi, en fait. Tu vois, ma vie devient un rêve éveillé parce qu'une année, on s'entraîne à Guigui, doit être à moins 4. On s'entraîne à la boule pendant une semaine. Puis, il y a une dame qui vient nous voir tous les jours. Puis, à la fin de la semaine, elle me dit, je veux que vous entraîniez mon fils. Je dis, c'est quand même dingue. Et du coup, moi, j'habite dans l'Essonne à l'époque.
Ouais.
Elle habite à Saint-Étienne. Le gamin, il veut arrêter de jouer au tennis. Plus personne ne veut l'entraîner parce que c'est un casse-couille. Il s'appelle Fabien Morel. On met une structure en place.
Fabien, si tu nous écoutes, il paraît que t'es casse-couille.
Bah oui, mais il sait. Mais oui, mais le truc de dingue, c'est qu'il est. Tout le monde dit qu'il est Skaku. Moi, c'est pas moi qui le dis.
Ouais.
Justement, c'est tout le monde. Plus personne veut l'entraîner. Tu comprends, dans sa ligue, dans son. Voilà, plus personne veut l'autre. Et on monte avec sa maman. On enlève tout le monde. Je veux plus personne dans le projet. Je vais à Saint-Étienne trouver un. Il fait de l'athlétisme, du lancer de poids, du lancer de javelot. Il y a une super équipe là-bas. Sa maman fait des entraînements comme je lui envoie. Et on se voit toutes les semaines, tous les week-ends, ou un week-end tous les. Bref, deux week-ends par mois. Il monte à la maison, plus les vacances scolaires, plus. Voilà. Et le mec, 9 mois après, devient champion de France minime. Voilà. Donc, si tu veux, ça fait déjà deux trucs un peu complètement dingues. Guigui qui monte de non classé à moins 4 en 5 ans ou en 4 ans. Et Fabien qui devient champion de France. Et donc, le championnat de France, c'est au mois de juin. Et coup de fil, bah, en tous les cas, ce n'est pas coup de fil, mais indirectement, il y a Patrick Mouratoglou qui veut me rencontrer et qui veut absolument m'avoir dans son équipe. Et moi, je refuse la première fois.
Oui.
Parce que c'est loin, parce que je ne sais plus pourquoi je refuse, mais voilà.
Pourquoi c'était à Tirana?
Et puis Guigui. Non, à l'époque, c'était à Montreuil.
Et toi, tu étais où?
Dans les Yvelines.
Ok.
Donc, si tu veux, ça faisait.
Ouais.
Ouais. Fallait prendre un avion, pratiquement. Ouais, c'est ça, ouais. Et donc, au mois de septembre, Guigui fait le critérium, parce qu'il gagne le critérium dans sa ligue, dans l'Essonne. Et là, Patrick, de nouveau, me dit, bah, écoute, je te donne rendez-vous, je ne sais plus, c'est un mardi, je dis une connerie, et je te donne rendez-vous demain dans mon bureau à 17h. Je dis, OK, bah, j'y vais. Et puis, en fait, il me dit, moi, j'ai envie de t'avoir, qu'est-ce que tu veux? Et puis, je fais une liste de tout ce que je veux, et puis, il coche tout.
Il y a quoi dans la liste?
Et à l'époque, bah, dans la liste, le gros truc, c'est de lui dire, bah, écoute, Patrick, moi, je pense que les gens, ils s'entraînent trop et ils ne savent pas s'entraîner. Et je lui dis, bah, moi, je vais faire 2 fois 2 heures dans ton académie, mais je ne vais pas faire plus. Et attends, le groupe, quand même, j'ai Julien Jean-Pierre, vice-champion du monde à l'époque de Federer, 81. J'ai, donc lui, il revient de blessure, mais il a été 400 déjà. Il a, je ne sais pas quel âge il a, il a 20 ans ou 20, ouais, 21 ans comme Steph, il est 80 ou 80, bref. Il y a Rodolphe Kadar qui a été 180. Il y a Stéphane Robert qui démarre sa carrière et qui a 0 point ou qui a 1 point, je ne sais plus exactement. Et tu as le plus fort de la bande, c'est Jean-François Bachelot qui est ouais. 260. Donc voilà la brochette que je prends. Moi, je sors du club. Et j'arrive et il me dit bah voilà ton groupe et il me dit c'est pas dur le haut niveau. Oh non, tu me dis tu vas les entraîner 2 heures, il me dit moi je m'en fous mais par contre s'ils gagnent pas les mecs tu dégages. Voilà. Et les mecs pendant 2 ans, donc il y a Bob Brett qui est là, je sais pas si t'es au courant, mais lui à l'époque il est pas sur le terrain, il gère ça de ouais. Il regarde et tout
ouais.
Et il y a Bob Brett qui est là. Et Boba, tu dis, mais c'est qui ce mec qui fait faire des trucs qui sortent de nulle part? Et dans les réunions, je me rappelle, il disait à tout le monde, mais je peux rien lui dire, les mecs, ils sont un contents et deux, ils gagnent.
En plus, Bob Brett, c'est l'école de. On bosse comme des oufs, quoi.
Non, 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 non.
Ah ouais? Pour avoir fait un épisode avec Marcos, je me souviens que Marcos me disait que c'était vraiment la rigueur, ce gars-là.
Ben ouais, mais de la rigueur, j'allais dire, c'est. Il n'y a pas de haut niveau sans rigueur. Mais par contre, moi, je dirais que Bob, c'était… Moi, j'ai découvert la psychologie. Il était différent avec les jeunes joueurs ou les mecs qui payaient, si tu veux, qu'avec les pros. Avec les pros, il était très psychologue, très à l'écoute, tu vois. C'est ça que j'ai découvert.
Et avec ceux qui payaient, il était comment?
Ah bah, il pouvait hurler, bah, il jouait un rôle, c'est du rôle du méchant, quoi. Donc, voilà. C'est… Mais… Moi, ouais, j'ai adoré travailler avec lui.
Quel monde cruel. il y a juste un truc sur lequel je voudrais revenir, Ronan. Deux trucs. Tu m'as dit,
ouais.
J'ai secoué très fort pour te remettre en question et créer ton concept, ta pédagogie. Qu'est-ce que tu as secoué très fort?
Bah, tout ce que j'avais appris, si tu veux, il y avait un conflit entre ce que j'avais appris de ce que la Fédération française de tennis m'avait appris pendant mon pour passer le DE, si tu veux.
Oui.
Et puis, moi, ce que j'avais en tête et que je n'osais pas.
Okay.
Tu vois, c'était, oui, mais alors, ils ont formé des grands joueurs. Moi, je ne suis rien pour l'instant. Et je suis là. Il y avait une prise de risque, si tu veux, toi, quand même. Et puis, à un moment donné, en fait, il y a Hicham Arazi qui nous invite, avec son coach de l'époque, qui nous invite aux États-Unis. Non, pas le coach de l'époque, son club formateur à Chevreuse, qui nous invite là-bas. Et au retour, dans l'avion, je lui dis, écoute, Hicham, moi, j'aimerais bien faire une séance avec toi. C'est tout nouveau. Je n'ai jamais fait ça à personne. Et puis, il y a lui, puis un mec qui est CSD dans la Ligue à Paris, là. Ils font tous les deux une séance. Et là, je me dis, aïe, je comprends le truc, quoi. Aïe, ça commence à… On est en 96. Et là, c'est juste incroyable.
Et, voilà. Il t'a invité où aux US et pourquoi faire?
Bah, c'est pour… il nous invite avec son ancien coach, son coach formateur, Patrick Charton. Il nous invite à New York, à l'US Open, pour voir comme ça.
Il vous paye les billets d'avion?
C'est sympa, tu vois. Ah non. Non, ah ouais. Non. Mais il nous invite. Quand je dis il nous invite, il nous permet de rentrer dans le stade. Toi, okay. Quand tu es DE en club,
ouais.
Toi, je veux dire, il ne va pas nous payer la bouffe et tout. il nous invite déjà. Je crois qu'il nous paye même la chambre d'hôtel. Toi, je crois qu'une chambre d'hôtel pour deux. Voilà, non, mais le kiff, quoi.
Bon geste, Hicham.
Voilà.
Et là, tu comprends quoi à ce moment-là?
Ben, je comprends que je suis dans le vrai. Parce que là, le mec, il est 90 mondial à l'époque. Et Patrice Boulet, qui est en face de lui, doit être à un 6. C'est les mecs, ils sortent de la séance. C'est les mecs, ils ont la banane. Ils ont joué, mais les mecs, en fait, je vois qu'ils ne touchent plus terre. Tu vois, c'est un truc que j'ai vécu souvent. Les mecs, en fait, ils sont concentrés. Ouais, ils ne touchent plus terre, quoi. C'est un truc que j'ai vu beaucoup, beaucoup.
Alors,
tu vois, à chaque entraînement que je fais.
Avant d'en savoir plus sur ta pédagogie, la sophrologie, le yoga, la PNL, est-ce que c'est des rencontres qui t'ont permis de pousser ces portes-là, ou est-ce que c'est toi qui, par ta curiosité, t'es dit « faut que j'aille chercher autre chose, faut que je m'ouvre différemment ». Comment t'as fait ?
Bah, moi, c'est ce que je disais au début, c'est que moi, je me suis posé la question que je ne performais pas. Donc, il y a un moment donné, moi, je faisais des bons temps en athlétisme et tout. Donc, je voyais bien qu'il y avait un truc. Donc, quand j'ai commencé à m'ouvrir sur Timothy Galloway, évidemment, j'avais du temps pour rechercher. Et donc, j'ai cherché partout. Donc, évidemment, la sophro, ça m'a intéressé. À un moment donné, je me suis dit, tiens, la PNL, c'est intéressant parce que finalement, ça parle d'échange, de communication avec l'autre, mais avec soi-même. L'hypnose, ça m'a permis de me rendre compte comment je fonctionnais parce qu'on avait deux cerveaux. Et que voilà. Donc, et puis, quand je disais, j'ai secoué très fort tout ça avec le yoga, et puis, à un moment donné, je me suis rendu compte que sur le terrain, je ne faisais plus faire la… Je peux te prendre un exemple. À un moment donné, par exemple, je faisais une séance de sophronisation sur le terrain, par exemple. Tu vois, je faisais de la sophro, mais sur le terrain. Tu
as dit sophronisation ?
Ouais. C'est une partie de la sophro. C'est en gros, c'est de dire bonjour à mon corps, la sophronisation.
OK.
Voilà. Et donc, quand j'étais en club… En 96, là, tout le lundi soir, j'accueillais tous les joueurs de la compétition. Ils étaient 16. On faisait une sophro avec tout le monde. Et puis après, ils allaient sur le terrain et moi, j'observais. Et là, je me disais, mais c'est complètement dingue. Je dis rien. Et les mecs ont fait des progrès de ouf. Et là, j'ai commencé à me dire qu'il y avait un vrai truc, que moins je parlais, mieux c'était. Plus je rentrais en communication, mieux c'était. Voilà, et j'ai commencé à observer, à écouter plus. Moi, j'étais évidemment plus calme. Donc voilà, il y a toute un amalgame de choses qui ont fait que tout d'un coup, bah, j'ai observé le tennis différemment. Et puis, c'est comme tout, hein, c'est comme un joueur. À un moment donné, quand tu as des résultats, ça va mieux. Hein.
T'as dit,
c'est beaucoup
t'as dit,
plus simple.
Tu as dit, moins je parlais, mieux ça allait. Et plus je rentrais en communication, plus ça allait. C'est contradictoire, non?
Ben non, parce que moi, je me rends bien compte aujourd'hui que je fais des formations. Le coach ou l'entraîneur de tennis ou le prof de tennis, comme peu importe comment on l'appelle, bah, il a cette tendance à parler tout le temps.
Ouais.
Et moi, je me rappelle d'un mec qui est venu me voir, j'entraînais Gilles à l'époque à Roland-Garros, il est venu me voir, il m'a dit, mais c'est pas dur ton job, tu as fait une séance d'une heure, je t'ai pas vu dire un mot. Mais, sauf qu'il ne sait pas le boulot qu'il y a eu juste avant d'aller sur le terrain, etc. Et puis que les joueurs, c'est des grands garçons, ils savent faire, ils savent ce qu'ils ont à faire. Et finalement, tout est réglé en amont. Voilà.
Donc pour toi, rentrer en communication, c'est l'avant-terrain, quoi.
Bah, c'est l'avant, et puis c'est à un moment donné aussi pendant, si tu veux.
Okay.
Il y a un moment donné, je me rappelle de moments avec Corentin Moutet, par exemple. Tiens, on a oublié de le citer tout à l'heure, Co.
Exactement.
Bah voilà, c'est bouillant d'entraîner Co. Et donc, il y a un moment donné, il faut arriver comme un sapeur-pompier avec le déguisement, la lance à incendie, et puis il faut réussir à trouver des solutions pour qu'il reste. Et voilà, et ça, et c'est le job pour que lui, à un moment donné, réussisse à le faire sans moi.
Alors, juste pour raccrocher après les wagons avec Bob Brett et Patrick, j'aurais une ou deux questions. Juste les deux, ouais. que sont devenus les deux avions que tu avais à l'époque, les deux jeunes là, celui qui est monté moins 4 en 4 ans et Fabien le casse-couille. Pourquoi, ouais. Pourquoi est-ce que finalement leur progression s'est arrêtée? Parce qu'on a l'impression d'avoir un chaman entre les mains qui transforme le plomb en or. Pourquoi est-ce qu'ils se sont arrêtés de progresser à un moment donné?
Mais le chaman qui transforme le plomb en or, il a sa limite. La limite, ce n'est pas le chaman justement qui fait le projet du joueur. C'est qu'à un moment donné, tu montes avec le joueur, tu l'accompagnes, et puis il se retrouve confronté à des réalités. Puis toi, tu l'aides à sauter au-dessus, à contourner, à trouver des solutions. Mais ce n'est pas moi qui les trouve, les solutions. Et puis des moments, le caillou en face, il est trop gros, ou en tous les cas, il l'imagine trop gros. Et finalement, ce que j'ai découvert après, c'est que le champion, lui, il est tellement motivé qu'il va jamais arrêter de se remettre en question et de chercher. Et les deux joueurs en question, bah, pour des raisons diverses, à un moment donné, le caillou a été trop gros. À un moment donné, pour l'un, ça a été de partir en voyage, c'était compliqué parce qu'il avait une copine. Pour l'autre, ça a été compliqué parce que moi, j'ai pas pu m'en occuper aussi bien qu'au départ. Voilà, ça a été des moments. Voilà. Mais le chaman, il ne fait pas tout.
Ça veut dire qu'un jour, un Stéphane Robert, lui, il voit les problèmes différemment, il les surmonte différemment, et il arrive à repousser à chaque fois le plafond plus loin, quoi.
Ouais, lui, c'est un monstre. Lui, c'est un monstre.
Avant d'arriver à Steph, on est à Mouratoglou, là, avec Bob Brett et Pat Mouratoglou. Patrick, qui n'est pas du tout connu et reconnu comme aujourd'hui, est-ce que tu aurais une ou deux anecdotes avec l'un et l'autre pour nous faire vivre un peu l'état d'esprit, l'ambiance de l'époque? Et les personnages qui sont à l'époque, ouais. Parce que Bob Brett est connu, il donne son nom à l'académie, Patrick est un peu dans l'ombre, est-ce que tu as des trucs que tu peux nous faire partager?
Ah non, mais il n'est pas dans l'ombre. Patrick, il a ça en tête de devenir, de créer une belle académie. Et il prend le meilleur coach du monde selon lui. Et la grande force de Pat, c'est qu'il a donné la chance à je ne sais pas combien de mecs qui étaient autant dans la Fédération française de tennis. Si tu n'as pas été en première série, tu as peu de chances d'entraîner un mec fort. Voilà, c'est les règles du jeu. Moi, je les ai très vite comprises. Voilà. Et il n'y a pas de problème avec ça. Lui, Patrick, il s'est dit, il y a des mecs qui peuvent réussir, qui ne sont pas là-dedans. Et moi, le mec m'a tendu la main, mais comme jamais il l'a fait. Personne ne l'a fait. Moi, il m'a donné… j'étais un des coachs numéro un rapidement. Il m'a fait confiance. Bon, bah, les joueurs ont gagné aussi, mais dès le début. Et Patrick, à un moment donné, je lui ai fait faire une séance. Et à un moment donné, il s'est mis à jouer comme McEnroe. Et il m'a dit, c'est dingue ton truc. Voilà. Donc, c'était complètement dingue.
C'est bon, ça. Putain, c'est énorme. Bob Brett, là, je viens de regarder juste rapidement. Il est décédé cette année, du coup.
Ouais, ouais, incroyable.
Il a coaché Boris Becker, Goran Ivanisevic, Andriy Medvedev, Nicolas Kiefer, Mario Ančić, Marin Cilic.
Putain, Bob, si tu nous écoutes, on te fait un gros bisou. Hein.
Ah, mais ouais. Bah non, mais un mec fabuleux. Un mec fabuleux.
Qu'est-ce qui t'a appris? Qu'est-ce que l'un et l'autre t'ont appris qui te sert encore aujourd'hui?
Bah, Patrick, c'est ce que je te dis. Moi, le truc que Patrick a, c'est qu'il a un cœur en or. Voilà. Je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui et je ne sais pas s'il le refera aujourd'hui. Mais en tout cas, il a ça au fond de lui. Voilà. Il a fait confiance à des tas de gens comme moi. Alors, il en a viré un paquet hein, dans l'histoire. Voilà. Mais c'était les règles du jeu. Il les expliquait au début. Il donnait la chance. Mais en même temps, fallait la saisir. Voilà. Donc, ça, je trouve ça dingue. Et puis, Bob, Bob, on s'est vite compris. Et il a accepté que je travaille différemment et il a essayé de comprendre. Et quand il a témoigné sur mon deuxième ouvrage, là, un nouveau coaching pour gagner, il m'a mis que j'étais un artiste. Donc voilà, ça m'a fait plutôt plaisir. Il a été curieux et il a accepté que je pense différemment de lui, mais qu'on était finalement assez proches de l'entraînement. On avait la même rigueur, on avait la même toit. Donc on se retrouvait au final. Ouais. Au début, il ne comprenait pas bien et Patrick m'a vraiment soutenu à cette époque-là. En disant, attends, laisse le faire. Voilà. Et voilà. Et la magie, c'est que les quatre joueurs, ils ont progressé, mais de dingue, en peu de temps. Et les mecs s'entraînaient, ouais, le truc de dingue, c'est que les mecs s'entraînaient deux heures par semaine, alors que tous avaient été à l'INSEP et dans tous les pôles France, hein, ouais. Où les mecs s'entraînaient 6 heures par jour. Et là, Jeff Bachelot, il est 2,60. Et on est au mois de septembre. Et l'Australian, c'est début de l'année. Il se qualifie, il passe un tour. Et après, je ne sais plus comment ça se passe, mais il est 130 mondial au bout de 8 mois. Quoi.
Alors attends, tu dis 2 heures par semaine d'entraînement?
Non, 2 heures par jour, pardon. D'accord. 2 heures par jour. Ouais, okay. 2 heures par jour. Non, 2 heures par semaine.
Et donc tu suis les 4?
2 heures par jour.
Tu suis les quatre en parallèle, comment tu t'organises et c'est quoi l'évolution du groupe?
Le gros truc, c'est moi, ma grande force à ce moment-là, c'est justement de pouvoir parler avec chacun. Et donc, on échange beaucoup. Il y a vraiment, avant de rentrer sur le terrain, je personnalise grave l'entraînement. Je fais la même chose pour tout le monde. Je cherche pas à me dire il y en a un qui est meilleur ou l'autre qui est moins bon. Je crois en chacun d'eux.
Ouais.
Voilà, je fais mon job et de temps en temps je pars avec un, de temps en temps je pars avec les deux. Et puis voilà, je pense que au départ celui avec lequel je suis le moins parti c'est peut-être Rod au tout départ qui nous a rejoint un peu plus tard. Rod qui est voilà, il était redescendu 600 donc c'était plus compliqué.
C'est qui Rod?
Rod Kadar, pardon. Ah, okay. Rodolphe Kadar, qui avait été 200, mais qui était redescendu bas, qui était 600 mondial, quand moi je l'ai récupéré. Chacun avait un projet différent, un parcours différent. Tu vois, il y avait Steph qui démarrait, qui était étudiant 2 mois avant. Tu avais Rod qui était 600 et qui avait été 180. Et les mecs avaient été champions Rod, il avait été moins 30 en cadet, je crois. Tu vois, les mecs avaient. Julien Jean-Pierre, il avait été vice-champion du monde pendant 11 mois. Il avait été devant Federer. Bon, voilà. Tu vois, c'était fabuleux. C'était complètement dingue. Et les mecs ont accepté de s'entraîner avec moi. Et oui, moi, j'avais été à 15-2, quoi. Tu vois?
Ouais.
Il n'y a pas un mec qui a bronché.
C'est énorme.
Ah bah oui, c'est énorme. Oui, non, mais quand j'y pense, quand je te dis que je vis un rêve éveillé depuis ce moment-là, bah oui, c'est toi.
Et je suis partagé entre que tu nous racontes vraiment quelle est cette méthode. Je suis sûr que tous les gens qui nous écoutent ont
envie attends, de savoir. Attends, attends. Hey, tu ne vas pas continuer avec cette méthode.
Pardon, oh, excuse-moi.
Je viens de t'expliquer que ce n'est pas une méthode. Attends, fais ton truc exprès pour expliquer à tout le monde que ce n'est plus une méthode. Attends.
C'est vrai qu'en plus,
je me casse.
En préparant l'interview, je l'ai lu, sans déconner, je l'ai lu 8 fois, 9 fois.
Ah, bien sûr, mais non, mais j'en peux plus. Ça me court après, tu ne peux pas savoir.
Ouais. Ceci dit,
ça me fatigue.
Ceci dit, ouais. Quand on voit Soyez Pro, chaque lettre a une signification, une définition, une approche. Donc, excuse-moi, hein, mais de l'extérieur, ça y ressemble. Qu'est-ce que, du coup, tu peux nous en dire avant d'aller peut-être plus loin sur le circuit?
Bien sûr, tu as raison. Le pro, ça veut... Alors déjà, c'est soyez pro et osez, la base.
Ouais.
On a raccourci parce que c'était trop long, mais c'est soyez pro et osez. Donc, je vais bien l'expliquer. Le P, c'est poser. En fait, ça vient de la sophro, c'est le corps. Moi, je pense qu'à un moment donné, quand tu es posé dans la vie ou sur un terrain de tennis, notamment au moment où la balle touche par terre de l'autre côté, en gros, si tu es calme, eh ben, c'est là où tu performes. Donc, tu vois, c'est quand même très vague. En même temps, il y a un truc très, très simple à faire, mais voilà. Après, il y a le R, c'est respirer. Tu vas me dire, voilà. Donc, tu vois, c'est pas non plus complexe, c'est pas, voilà. Et après, il y a le O, c'est observer mon intérieur. Donc, mon intérieur, c'est comment je me parle dans la tête, mais c'est aussi corporellement les tensions que j'ai. Donc, je suis à l'écoute de ça pour justement observer le monde qui m'entoure sans jugement. Voilà. Et après, une fois que je fais ça, c'est comme si j'étais en haut du plongeoir de 10 mètres et je me dis, bon, maintenant, je plonge ou je saute, mais j'y vais. Il faut que j'arrête de me raconter des trucs. Je sais plein de choses. Maintenant, il faut que je joue sans penser. Voilà, parce que le fin fond du truc, c'est ça. Okay. C'est jouer sans penser.
Et le pro, donc, tu l'as tourné dans tous les sens pour te dire, attends, quelle lettre je mets en premier, quelle lettre je mets en deuxième, tout ça. Comment tu as formulé cette formule?
Ouais, écoute, c'est assez marrant, encore une fois, tu sais, c'est un entraînement comme ça. Je ne sais pas pourquoi je dis au mec, justement, il y avait Guillaume Pichot et je ne sais plus qui il y avait en face. Et je dis, c'est de là que c'est venu. Je ne sais pas, je leur ai dit, les gars, vous allez être posés, vous allez respirer, puis vous allez observer un truc comme ça. En fait, et tout d'un coup, je me suis dit, mais ça fait pro, ça. Tu vois, voilà. Mmh. C'est un coup de magie, quoi. Okay. Je n'ai pas réfléchi des années, C'est le coup du lapin, toi. C'est paf.
C'est comme les
lapins qui sortent du chapeau. Ben voilà.
C'est comme les artistes qui écrivent un tube en une soirée, quoi. C'est pareil.
C'est sûr. Voilà. Là, tout d'un coup, c'est venu comme ça.
Ok. Retournons donc avec nos quatre lurons là. Quelle a été la suite et comment ça s'est dessiné avec Steph ensuite pour partir en one to one?
Ben écoute, l'aventure. Ben il y a un moment donné. Pendant 2 ans, j'ai eu les quatre. Ça veut dire qu'à un moment donné, Steph, il commençait les futurs. Julien, il faisait les futurs. Rod, il faisait les futurs. Tu vois ? Et Jeff, lui, il jouait déjà les Challengers, les qualifs de Grand Prix et des qualifs de Grand Chelem. Et comme je t'ai dit, rapidement, il est monté 130. Donc, lui, il a commencé à vouloir un peu plus. Et un jour, un dimanche, Patrick m'appelle en me disant, voilà, moi, ce que je veux, c'est que tu t'occupes, ça serait bien, tu vois à quelle vitesse ça va. J'aimerais bien que tu t'occupes de Jeff. Et je ne sais pas pourquoi, je lui dis, je pense que ce n'est pas le moment. Moi, je pense que le groupe est encore important pour moi et pour eux. Je pense qu'ils te font du bien. Et voilà, je lui dis ça. Je lui dis, moi, j'ai envie de continuer. Il dit, OK, pas de problème. Voilà, et du coup, 2 ans se passent. Et puis moi, Patrick décide de partir à Tiverval. En fait, tout le monde s'en va et puis il recrée. Et puis moi, je décide de partir vivre dans le Finistère. Et puis voilà, et j'en ai marre d'être sur Paris ou la région parisienne. Et voilà.
Alors, attends, ça veut dire que tu arrêtes avec les gars et tout, enfin...
Non, justement. Non, c'est ça qui est dingue. Les mecs veulent continuer. Et donc, on monte un groupe avec, il y a quasiment les mêmes. Il y en a même d'autres qui se rajoutent.
Mais tu t'es brouillé avec Patrick ou quoi? Parce que tu dis...
Non, du tout. Non. En fait, c'est lui qui a décidé d'arrêter. Ah non, pas du tout. Je ne me suis jamais brouillé avec Patrick. Jamais. Jamais de la vie. C'est lui qui décide d'arrêter.
Tu décris un mec qui te fait confiance et au moment où tu déménages, c'est toi qui te barre. Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, tu le suis pas, quoi?
Non, c'est pas moi. C'est que lui arrête. C'est que lui arrête à Montreuil, si tu veux.
Oui, mais pour faire la même chose dans les Yvelines.
Oui, mais à l'époque, ce n'était pas clair. On ne va pas parler de ça des heures, mais si tu veux, à un moment donné, ça devait se faire à Montpellier, par exemple, et ça a mis du temps. Ça n'a ça, ça pas enchaîné tout de suite, si tu veux.
OK.
Tu vois ? Voilà. Donc, ouais, moi, tu vois, tu me poses la question, mais à l'époque, ça s'est fait assez naturellement. Et moi, de toute façon, j'avais envie d'aller vivre près de la mer. Et voilà.
Donc, tu atterris dans quelle ville, là ?
Là, on est pas loin de Sainte-Marine, près de Quimper.
Ok. Et les gars te suivent.
Ouais, exactement. Ouais, les gars me suivent. Et pas tous, mais certains. Après, je fais des semaines à Roland-Garros. Tu sais que quand tu es en première série, tu as le droit de… Voilà. Donc, on a une salle d'entraînement physique, c'est dehors sous le Englen. Ouais. On a le droit qu'à ça. Et on va au fond, à droite, là-bas, là où il y a les mecs qui ne sont pas assez forts.
OK.
Donc, voilà.
Donc
et du coup, on s'entraîne entre… Ouais, je fais des allers-retours sur Paris, je fais des semaines et je continue à voyager. Il y a un moment donné, je me rappelle plus trop les dates, mais il y a un moment donné, avec Steph, ça s'arrête, avec Jeff aussi, puis ça repart. Voilà, il y a eu des moments comme ça. Il y a eu Rod… qui a fait qualifier quart à Marseille, tu vois, qui se blesse après au poignet, qui arrête. Voilà, il y a eu… Et moi, en même temps, à l'époque, je commence dans la voile à Port-la-Forêt, la vallée des fous.
Comment tu mets un pied dans la voile ?
Bah, c'est le patron de Port-la-Forêt, qui est la mec de la voile à l'époque, qui m'appelle en me disant, voilà, je sais que tu fais de la préparation mentale. Voilà, moi, je cherche quelqu'un et voilà. Et en fait… il y a Armel Tripon qui vient de finir le Vendée là, avec lequel j'ai travaillé qui a plus de structure parce qu'il vient de se faire virer de cette structure et on commence ensemble. Voilà. Et puis j'ai une autre navigatrice, donc en fait à partir de ce moment là j'enchaîne entre les deux.
Et à ce moment là est-ce que toi t'es confiant en te disant ok, je vais ni plus ni moins que dupliquer ce que je fais sur le tennis, ou est-ce que tu te dis oh putain attends, j'arrive dans un milieu là où je connais pas trop les codes et tout. Est-ce que ça va prendre ? Comment tu vis le truc ?
Bah moi, la voile, c'est mon sport numéro un, en fait. Voilà.
D'accord.
Là, je suis 15-2 au tennis. À la voile, je suis un peu plus que 15-2.
Mais tu es plein de ressources, Ronan. Tu ne nous l'avais pas dit. C'est-à-dire, bah,
si
c'est quoi ton niveau ?
Je ne vais pas te le dire. Il n'y a pas de niveau, mais big, je sais un peu naviguer.
Non. D'accord. Sur quel type de bateau ? Et t'as rêvé d'être pro, du coup ?
Ah non, 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 non. Non, 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 mais j'ai fait des courses, je navigue. Toi, quand j'entraîne Armel, on a fait du Figaro ensemble, je me suis occupé de Lise Varley, j'étais sur l'eau tout le temps. Tout
d'accord.
Le temps. Je fais le même job que ce que je fais avec au tennis, mais sur l'eau. C'est pareil.
Les mecs sur les bateaux peuvent être en short aussi. Pourquoi tu ne rêvais pas de les accompagner dès le début ?
Ah mais non, mais moi, mon kiff, c'est de faire du golf, du foot. Non, pas du foot, mais de faire du tennis, de la voile. J'adore ça. Tout ce qui… Il y a un terrain de jeu qui est ouvert, comme ça, j'adore.
D'accord. Tant qu'il y a du soleil et des shorts, c'est bon.
Voilà, exactement.
C'est pour ça que tu as la Réunion, là, d'ailleurs. Et là, tu fais quoi cette semaine à la Réunion ?
Ben, la semaine dernière, je faisais une formation.
Ouais.
Et là, cette semaine, je m'occupe d'un jeune qui a 13 ans avec son papa, qui a un projet vers le haut niveau. Et donc, je les accompagne. Je fais 4 fois 5 jours par an, on va dire.
D'accord. Et quand tu dis « je fais une formation », ça veut dire que tu as un club, des gens, des profs devant toi et que tu leur transmets ta pédagogie ?
Alors, je ne sais pas si je leur transmets, mais en tous les cas, oui, il y a… Aujourd'hui, mon job, c'est de ce que moi j'ai vécu, j'aimerais le partager et dire que il n'y a pas que moi qui peux le faire. Voilà, je suis pas Zorro, j'ai pas de l'or dans les mains, j'ai rien. C'est du travail, c'est d'avoir osé et j'ai envie d'expliquer aux gens que bah, eux aussi peuvent être des grands coachs. Voilà, j'ai envie que ça serve. Voilà, j'ai envie que j'ai pas cherché, j'ai pas couru après le monde pendant des années pour un jour mourir et dire bon bah voilà j'ai écrit et je pense que je réécrirai J'ai envie de transmettre.
Ok. Alors, pour comprendre.
J'ai envie d'aider le tennis français. Voilà, clairement.
Pour continuer du coup sur la chronologie, avec les quatre mecs, là, on se rend compte qu'il y en a un qui prend sa retraite, il y en a un qui continue, il y a un autre qui arrête, on ne sait pas trop. T'en es où et c'est quoi la suite ?
Oh, ben, la suite, il y a eu beaucoup de suites. Hein. Il y a eu à un moment donné, effectivement, il y a Jeff qui arrête, qui a 30 et quelques années, il y a Rod qui se blesse au poignet. Et puis à un moment donné, il y a Steph qui réapparaît. On s'entraîne, puis de nouveau, il a une hépatite, et puis on repart ensemble un an et demi après. Il ne peut plus marcher quasiment. Et je lui dis, moi, je crois en toi, et on rigole de ça. On est à Roland-Garros, je me rappelle, et il tire un but avec un petit ballon dans un lit, et il me dit, je ne sais plus ce qu'il me dit, mais on éclate de rire. Et le mec ne peut même plus marcher. Je lui demande de courir comme ça, il n'y arrive plus. Un an et demi sans rien faire. C'est incroyable. Et donc, je lui dis, moi, je suis ton homme. Je ne te demande rien comme argent. Tu vas revenir à la 167e place mondiale. Et puis après, on en rediscutera.
Voilà, parce que son classement protégé ou même pas
non, non. Ben non, c'est un moment où justement, il n'a pas le classement protégé. Ouais. Il oublie de demander, il ne sait pas.
Ouais.
Voilà.
Donc là, tu lui dis, OK, je vais au moins te ramener là où tu étais avant, quoi.
Voilà.
En te disant, quand vous allez retourner sur le circuit, c'est toi qui vas payer tes déplacements, tout ça, tu lui demandes rien, quoi.
Ah non, jamais. Je lui demande rien pour les entraînements, mais il me défraie tout. Oui, on reste quand même là-dedans. Et je pense qu'au début, comme il était monté à la 167e place mondiale, au début, en futur, j'y vais pas beaucoup.
D'accord.
En fait, au début, j'y vais pas beaucoup. On s'entraîne. On s'appelle au téléphone, etc. Mais j'y vais pas souvent.
Ok. Qu'est-ce qui te donne une telle confiance en lui et en toi à ce moment-là pour lui dire ça ?
J'ai confiance en l'humain déjà. Donc j'ai confiance en Steph, mais j'ai confiance aveugle dans tous les joueurs dont je m'occupe. Voilà, tous les sportifs avec les. Voilà, je crois grave en eux et je crois qu'ils vont y arriver.
Peu importe le mec en face ou est-ce que parfois c'est à tort par exemple, que tu crois alors que
non, jamais parce que moi je pense que tout est possible et que voilà et que c'est qu'une question de il y a des choses à faire, il y a des choses à comprendre et que quand tu comprends tout ça, dire Steph, tu lui aurais dit. Quand on s'est rencontrés, le mec, il était presque prof de gym. Donc, on en rigolait toujours. Et tu lui dis, quelques années après, tu verras, tu seras 50e mondial. Mais il n'y a pas une personne. Et même lui, et même moi. Tu vois, on a travaillé. Et puis, à un moment donné...
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
L'année, ça a cogné et on a rigolé encore plus. Mais on a travaillé. Et puis, il y a des gens qui me disent « Oui, mais bon, c'est beaucoup d'argent. » Mais je veux te dire, on était deux. Moi, je faisais le physique, le mental et la technique. C'est pas dur, hein.
Comment ça, c'est beaucoup d'argent ?
Non, c'est pas beaucoup d'argent. Ça coûte pas beaucoup. Non, mais on me dit « Il faut beaucoup d'argent pour réussir. » Mais ouais. Et non, j'y crois pas une seconde. Si tu as un coach qui croit en toi et qui est compétent, la réussite, elle va être au bout.
T'es le couteau suisse.
En France, on en a des. Tu prends Zimbler, il a pris Bonzi. Qu'est-ce qu'il a, Bonzi ? Qu'est-ce qu'il fait, Bonzi, en ce moment ? Il y a Fontan qui prend Chardy. Il a fait quoi, Chardy ? Il y en a un paquet. tu prends l'entraîneur de Danil, il l'a pris, il était où? Donc il y en a des mecs, il n'y en a pas qu'un.
C'est vrai.
Tu veux,
Est-ce que tu peux nous illustrer du
vois,
coup
non, mais Gilles, c'est pareil, un mec comme Gilles Servara, c'est pareil. C'est des mecs qui, si tu discutes avec eux, ils vont te dire que l'humain c'est important et qu'ils ont travaillé. Et Sam Sumik, c'est pareil. Je veux dire, ces mecs-là, ils savent ce que c'est.
Ouais.
Et que c'est possible.
Ce qui est énorme pour les auditeurs qui nous écoutent là, c'est que Servara, on a fait un épisode, Sumik, on a fait un épisode, Fontan, on a fait un épisode, toi, on est en train de faire un épisode, c'est là où je me dis qu'on est en train de faire du bon boulot. Putain, c'est bon ça. Est-ce que tu peux nous illustrer concrètement le travail que tu fais avec Steph sur ta pédagogie, du coup, avec le pro sur le cours, à quoi ça ressemble? Est-ce que tu aurais deux, trois exemples? Est-ce que tu peux nous le faire vivre?
Bah écoute, ouais, moi, quand je rencontre Steph, c'est un mec qui il vous l'a dit, hein, il l'a dit, il l'a raconté. C'est un mec qui a quasiment jamais eu d'entraîneur. En tous les cas, les deux dernières années, quand il fait moins 2, moins 30, il n'a pas d'entraîneur. C'est un mec qui s'est fait un peu tout seul, Steph. Et moi, quand je le vois techniquement, alors c'est un guerrier, mais tu veux, il se décale en revers au lieu de faire des coups droits. Il frappe des longues lignes, en veux-tu, en voilà, de n'importe où. Il fait des premières secondes, il ne volaille pas, il ne joue que sur terre. Et il a une hernie discale. Bon, ben voilà. Voilà le… Et voilà.
Ce qu'on appelle un épouvantail.
Et donc, si tu veux, quand le mec arrive, tu te dis, putain, le mec, c'est un gros compétiteur.
Ouais.
Et lui, il arrive et on travaille ensemble. Il me dit, ben moi, je vais rester entre 3 et 6 mois. Puis après, je verrai, ça se trouve, je vais arrêter. Et mais en tous les cas, si je ne suis pas 400 ou 300 à la fin de l'année, j'arrête.
Okay.
Voilà un peu voilà le cadre. Et puis, on commence à travailler. Et puis, moi, je me rends compte que bah, c'est intéressant, son envers de longue ligne. Moi, ça va à l'inverse de ce qu'on m'a expliqué dans les livres. Normalement, il faut croiser, tu vois, quand tu es quand même à la rue là-bas, il faut croiser. Bah, lui, il fait de longue ligne. Alors, des fois, il la met à ça dedans. Et donc, au début, on a rigolé. Je lui ai dit, bah, écoute, tu as perdu le match, tu les as mis à ça dedans. Et au lieu de lui dire, bon, putain, il faut jouer de la diag. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre avec Steph, c'est que c'est un mec, bah, tu l'as vu, hein, c'est un mec très calme à la base. Et donc, lui, ce qu'il veut, il a compris, parce que c'est un compétiteur, il a compris que s'il ne veut pas se faire agresser, il faut qu'il agresse. En fait, c'est ça son truc. Comme il n'est pas calme, il agresse tout le temps. Et il a compris aussi que s'il jouait sur dur, il se ferait agresser et il n'aime pas ça. Donc, il n'a jamais joué sur dur. Il te l'a dit.
Ouais.
Tu veux? Donc, le défi, il est de taille. Et donc, moi, on commence à faire des entraînements où je m'en fous qu'il ne joue pas là-bas. Mais je lui dis, par contre, au lieu de la mettre à ça, à 20 de la ligne sur le côté, tu vas peut-être… On met des cibles à l'intérieur du cours. Ça va changer la donne, tu vois.
Ouais.
Et puis, on fait des sophros, on fait des relâchements, on fait même des sophrologies avant de jouer sur le terrain, alors que ça, normalement, tu prends les bouquins, c'est interdit. Mais lui, il est tellement speed que ça marche. Et puis, on démarre, on part en Amérique centrale ensemble. Et le mec, et Steph, il fait, il doit finir troisième, je crois, du satellite. Et là, moi, il y a deux choses qui se passent. C'est que moi, je crois qu'il joue un mec top 200 et là, je me dis, c'est pas bon, top 200. C'est pas très fort. Je me rends compte qu'en fait, c'est pas très fort. Et donc, on en parle et je dis, moi, je pense que 200, c'est pas très fort. Parce que mentalement, parce que, voilà, je trouve que c'est pas encore les os qui et pourtant, moi, je connais pas ce niveau-là puisque j'arrive du club quelques mois avant. Mais je me rends compte de ça et je lui en parle. Et en fait, on part. Donc ça, c'est la tournée où il gagne je ne sais plus combien de points au satellite. Derrière, il gagne un futur en Israël, sur dur. Et on va au Caire ensemble, faire un autre satellite. Et là, il gagne le satellite. Il joue deux fois un mec top 200, qui est 200 mondial. Il lui met 0 et 0. Le mec, il joue en deux semaines, il joue deux fois de suite. Et là, il fait que des winners, Steph. Winner sur winner. Truc de malade. Voilà. Et puis en fait, on est au mois d'avril. Il démarre, il est 1000. Et là, au mois d'avril, il est 400 ou un truc comme ça, tu vois. Et là, il a une wildcard à Roland en qualif. Il lui demande. Et là, en fait, il a tellement peur, Steph, qu'il dit non, je ne suis pas prêt. Donc, il joue pas. Il fait pas les qualifs.
Tu n'arrives pas à le convaincre?
Non, j'arrive pas à le convaincre.
Justement.
Non, mais là, je vois qu'il a peur, que ça a été trop vite. Ça a été trop vite. Là, je vois bien. Toi, si tu veux, il me disait je vais faire 3 mois, puis je vais voir. Et là, le mec, au bout de 3 mois, il est 400 mondial.
Et on lui propose
les qualifs à Roland.
Et justement, comment tu as réussi à le convaincre à faire de la sophrologie, à se poser? C'est pas donné à tout le monde d'accepter de pousser ces portes-là.
Je crois que c'est encore une fois, moi, je passe beaucoup de temps à discuter avec les joueurs et j'essaye de comprendre ce qui leur manque. Et forcément, à un moment donné, c'est un mec curieux, Steph. Et il m'a dit, de toute façon, qu'est-ce que j'ai à perdre? Et puis, il n'est pas fou. En fait, un champion, ce n'est pas dur. Hein. S'il fait quelque chose, qu'il voit un intérêt et qu'il voit des progrès, il va continuer à le faire. Okay. Et donc, il y a tout ça. Voilà. Et en fait, c'est la magie du truc. C'est comme moi, j'écoute ce qu'ils veulent faire. Ça vient toujours d'eux. Donc, leur estime grandit. Et ils ont toujours de plus en plus faim. En fait, moi, c'est ça mon job de coach. Moi, finalement, je ne sais rien. Je veux dire, j'ai été à 15-2. 2, ça a été laborieux. Je ne vais quand même pas dire à un mec qui est 400 mondial, moi, à ta place, je ferai ça. Donc ça, tu vois, ça a été simple. Déjà, au moins, c'était clair pour moi. Moi, par contre, j'ai appris à les écouter, j'ai appris à les challenger. Voilà, tout ça, ça a été très, très important. Et ça continue à l'être, bien sûr.
Donc, ils refusent la wildcard. Et la suite ensemble, c'est quoi?
La suite, c'est encore quelques années après. Ils montent 167e mondial. Et puis là, il vous l'a raconté, vient les problématiques finalement de tout d'un coup, il ne veut plus travailler. En tous les cas, il ne travaille plus de la même façon parce que il se dit je suis 160. On est au mois de mai, je n'ai pas de points à défendre tout l'été. Je vais faire des tournois, je vais monter dans le top 100. Et puis là, il ne gagne plus de matchs. Et puis il se sauve en gagnant un challenger à la fin de l'année. Mais là, il y a un truc qui se casse.
C'est quoi, selon toi? Attends, tu peux juste tirer le micro, s'il te plaît?
Ouais. Il y a un truc qui se casse dans le sens où il est bloqué. Il est bloqué sur cette idée du top 100.
Okay.
Et donc, il n'arrive plus à travailler. Là, il me dit, écoute, j'ai besoin de faire un break. Voilà. Et moi, j'accepte.
Tu n'arrives pas à défaire le nœud dans sa tête à ce moment-là?
Non.
Et au niveau...
la puissance du top 100, c'est un truc, c'est inimaginable. Quand tu es de 160, tu as l'impression que c'est tout prêt. Et moi, j'ai accompagné Jeff Bachelot, qui est monté 130, tu as l'impression que c'est tout prêt, mais c'est très loin. C'est très, très loin. Donc, finalement, il y a plein de gens qui disent que tu n'es pas loin, mais il y a des gens qui ont été 102 mondial. Il faut savoir que quand tu es 200 mondial, je crois que tu as 200 points. Un truc comme ça. Je n'ai pas les trucs en tête, mais ça doit être pas loin. Quand tu es top 100, tu as 680 points.
Ah ouais, putain.
Tu vois le truc?
Ouais.
Ben oui. Donc, si tu veux, c'est quand tu es 200, t'as gravi une petite montagne. Tu vois? Donc, voilà. Et donc, c'est le piège un peu de tout ça, si tu veux.
Et
ce putain de classement qui t'empêche à un moment donné de travailler. Tu n'as qu'une envie, c'est de l'avoir. Et lui, c'est ce qui s'est passé. Et voilà. J'ai pas réussi. On n'a pas réussi.
Et en termes de fit humain avec Steph, tous les deux, ça raconte quoi en dehors du cours aussi?
De toute façon, c'est l'histoire de deux dingues qui ont un projet commun d'aller toucher les étoiles et voilà. Et qui ne se posent pas de questions, de rien du tout. Ils foncent. ils avancent, on avance tout le temps. C'est ça qui a été fabuleux. C'est tous les jours, 24 sur 24, on est au petit-déj, on parle du truc. On est, voilà, on mangeait, voilà, on partageait les chambres pendant très longtemps. C'est un truc de malade. Un engagement terrible. Je suis 10 ans après le BE, j'ai 38 ans.
Ok. Tu dis le BE, ça me fait penser que tu nous as pas dit ce que tu as ressenti quand tu l'as eu, ton putain de BE, après avoir autant galéré.
Bah ouais, bah ça a été un moment énorme. Ça a été énorme. Je me suis dit, allez, la porte s'ouvre. De ce que je vais enfin pouvoir faire, ce que j'ai envie de faire, quoi. Tu vois ? Et moi, j'avais.
T'as vu la lumière ?
J'ai vu la lumière. Ah ouais, ouais, ouais. Et puis moi après, j'ai entraîné, mais comme si les mecs en club, je les entraînais. Moi, les matchs par équipe le dimanche, c'était la Coupe Davis, tu peux pas savoir. J'étais dingue. J'étais habité. Les mecs arrivaient à 7 heures. On faisait des méditations, on faisait des sophros sur le terrain.
Putain, c'est énorme. T'as dû en marquer quelques-uns à cette époque-là.
Ouais, j'en ai marqué. Et on a loupé la montée en championnat de France. Moi, c'est ce qui m'a. En fait, c'est le moment où Patrick m'a appelé. Ça tombait bien parce que je sentais que c'était la fin de quelque chose.
OK.
Mais moi, je rêvais de former des grands joueurs. Voilà. C'était tout ce qui m'animait. Donc là, j'avais, pour répondre à ta question, j'avais un mec comme Steph. Je le challengeais, il trouvait des solutions. Par moments, il bloquait. Là, il y a eu des moments où il a bloqué. Et on repartait ensemble et comme si on ne s'était jamais arrêté. Et c'est arrivé, on a dû arrêter deux ou trois fois, toi.
C'est comparable à une vie de couple, un peu ?
Ah non. Non, 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 non. Ça n'a rien à voir.
Parce que tu passes tellement de temps ensemble, tu te confies tellement tes craintes.
Ah non, mais moi, je confie rien du tout. Mais moi, je confie rien.
Ah ouais.
Je
ne
suis pas là pour ça.
Ben, ah ouais.
Non, mais moi, je ne suis pas là pour ça.
Et à qui tu confies tes doutes, toi, à ce moment-là ?
Bah, ouais, j'en parle un petit peu à droite, à gauche, mais…
Tu es dans l'action, quoi.
Ouais, je suis dans l'action. Mais il n'y a pas vraiment de doute, toi, je dirais. Mais c'est assez compliqué à expliquer. Quand tu es habité, tu vois. Bah, tout ça, ça te paraît… tu tombes, tu te redresses, et puis tu avances, et puis tu trouves des solutions. Il y a un moment donné, par exemple, Steph, il faisait du physique. On a arrêté le physique parce que moi, je pense que ça ne servait à rien. Il rentrait en me disant, t'as vu les temps, je me suis amélioré. Je dis oui, mais bon, là, sur le terrain,
t'es
amélioré, mais tu n'arrives pas à respirer. Donc, si tu veux, ça ne sert à rien. Donc, tu vas respirer, puis après, tu reprendras le physique. Tu vois ? Donc, on a fait des choix comme ça, qui sont presque irrationnels. Mmh. Et puis, au fur et à mesure, il s'est calmé, il a compris des choses. Et puis, son jeu, ça a évolué. Il a commencé à voir qu'il y avait un peu de lumière à droite du terrain, là-bas, en vert, et qu'il ne voyait pas que la lumière rouge là. Et puis, il a commencé à voir qu'il y avait un peu des espaces là-bas, un peu de nature, un peu de verdure. Et puis, il a commencé à dire, tiens, c'est intéressant d'y aller. Et puis, de créer. Et puis, de jouer. Et puis voilà, il a commencé à jouer avec tout ça. Et son cerveau a commencé à s'ouvrir, tu vois. Donc, ça, c'était passionnant.
C'était passionnant. Quoi la suite après ce blocage là, dont tu parlais ?
Ah oui, bah après, il y a eu une… Je ne sais plus comment ça s'est passé, mais il y a un moment extraordinaire. Il remonte 160, quelque chose comme ça. Et donc là, on se retrouve au moment où il avait bloqué, tu vois, le moment où tout d'un coup, il voulait être top 100, etc. Donc là, je dis, on ne va plus recoller là. On ne va pas retourner à ça. Et puis, il y a un moment magique. Il perd sur… on est à Rennes. Je ne sais plus en quelle année c'est, mais on est peut-être en 2008, tu vois, ou un truc comme ça. On est à Rennes et il perd sur Sidorenko après avoir eu une balle de match. Et là, je me rappelle, on s'assoit. Il a un double à jouer après. Et là, c'est un moment un peu hors du temps, encore un. Et là, je lui dis, Steph, moi, je trouve que tu joues très bien au tennis, mais tu n'arrives pas à te lâcher. Tu n'arrives pas à jouer, tu n'arrives pas, il y a un truc, tu joues avec le frein à main. Et je lui dis, écoute, moi, je veux bien encore continuer. Et donc, je ne sais pas pourquoi, je commence à lui parler de la mort et de lui dire… Et si c'était ton dernier match, tout à l'heure, tu changerais quoi ? Donc, tu vois, le truc, un peu de malade mental, hein, là. On part sur un sujet, on parle de la mort, tu vois.
Ouais.
Et il me dit, je me lâcherai, j'enverrai. Je lui dis, tu as un double tout à l'heure, est-ce que ça te dit de commencer à le faire ? Et puis, donc, il joue son double, je ne sais pas ce qu'il fait. Et la semaine d'après, c'est Orléans, un gros challenger. Un des gros en France, je ne sais plus combien c'est de prize, mais c'est gros.
Ben, Orléans, c'est bien simple, on a fait hors-série, là, c'est le deuxième plus gros challenger du monde.
Bon, ben voilà. Donc, tu vois, c'est un gros, gros truc. Et il a un gros tableau. Et là, il se tape Anderson, je crois qu'il y a deux Schonach, et il bat Chardy, qui est top 50. Et c'est son premier top 50 à Steph. Et non. Là, c'est un truc, tu vois. Et puis, il fait finale contre, je ne sais plus qui, un Belge, à Malice, je crois. Bon, bref.
Et là, au début du tournoi, tu lui refais une piqûre de rappel sur la mort.
Ah bah oui, on ne fait que ça. Ah oui, là, à ce moment, à partir de là, oui, c'est que ça. C'est que ça, là.
Et tu sens que ça lui libère le bras, quoi.
Ah bah oui, la tête, surtout.
Mmh.
La tête. Et puis, après, il enchaîne, je crois qu'il fait… Je ne sais plus ce qui se passe, mais il arrive au mois d'octobre ou novembre, là. Il enquille 3 challengers où il fait finale ou demi. Je crois qu'il fait finale ou peut-être qu'il gagne même, tu vois, peut-être.
Ouais.
Et il se retrouve 108 mondial, un truc comme ça. Et là, il part tout seul à Bratislava. Et là, si tu veux, tu es 108 mondial, il te reste un tournoi, tu es en chauve depuis 3 ou 4 tournois. Il me dit, si je fais quart, je suis top 100 et j'intègre le tableau en Australie. Il me dit ça. Et j'ai fait, ouais, mais tu commences à jouer avec des cachetons. T'as mal sous le pied, moi je pense qu'il va falloir que tu rentres par contre. Je lui dis ça. Il me dit, mais t'es dingue. Je lui dis, oui, je sais. Et j'arrive à le convaincre. Il rentre. Et puis son pied, ça ne va pas mieux. On est en Bretagne, il vient en Bretagne et on fait de la marche sur la plage et on s'entraîne avec un mec à 15 dans les carrés de service sans bouger. Mais on fait un travail de mutant sur la concentration par contre. Je ne le lâche pas un gramme. Et je lui dis, et c'est pas du bluff, avant de partir en Inde, il s'entraîne avec, d'ailleurs, c'est Rinderknecht, je crois. On s'entraîne dans les carrés, dans la Ligue des Yvelines avant de partir en Inde. Et c'est le seul moment où il bouge un peu. Et,
donc Arthur est 15 à ce moment-là.
Non, je crois qu'il est 3-6, me semble.
Okay.
Ou 3-6 ou 2-6, un truc comme ça. Et il fait sparring et tout, c'est sympa. Et on part en Inde. Et moi, je dis à Steph, je lui dis, pour moi, t'es prêt. Elle me dit, mais. C'est pas entraîné, tu me dis, je suis prêt. Je dis oui. Je dis oui, tu es prêt. Et puis, avec la chaleur et tout, ça va mieux.
Ouais.
Il passe un tour en Inde et tout. Et puis, on arrive à Melbourne. Il doit jouer les qualifs. Il est numéro 1. Il est un dehors du tableau. Puisqu'il n'avait pas joué. Donc, si tu veux, il paye le billet d'avion. Il paye tout, là. Hein, alors que. C'est pas la même chose quand tu joues en qualif que quand tu joues le tableau. Tu vois bien.
Mm.
Et là, le matin du match, à 20 minutes, alors qu'il s'était échauffé, il y a Nalbandian, le coach de Nalbandian, qui vient voir en me disant, écoute, il ne jouera pas Nalbandian. Donc, Steph rentre dans le tableau à 20 minutes près. Et là, Steph, il bat Saracé et en 3-7. Donc, pour un mec qui ne s'était pas entraîné, il joue, je pense que pour moi, c'est un de ses meilleurs matchs. Et après, il joue Montanès. Il met 2-7-0 contre Montanès, qui est tête de série, je ne sais plus combien, 20 ou un truc comme ça. Et là, tu as tout le clan français qui arrive en me disant « Putain, mais il va le niquer et tout ça. » Je dis « Non, vous allez voir, il va cramper surtout parce qu'il ne s'est pas préparé. Il n'a rien fait physiquement, donc ce n'est pas possible. Il va peut-être gagner, mais voilà. » Et donc, il finit, il peut même plus tenir la raquette. Il finit quasiment, c'est terrible. Et après, il va jouer à Johannesburg. Et il bat.
T'es pas trop au fond, toi, quand il perd contre Montanès ?
Non. Attends, je suis pas trop au fond. Il vient de passer 108 mondial. Là, il bat Saracé. Il passe un tour à Chennai. Il bat Saracé. Chennai, c'est un 250. Il a jamais fait ça. Sur dur. Il bat Saracé en 3-7. Tu veux, si je fais la gueule là. Et puis là, c'est le grand circuit quand même, là, tout d'un coup. Hein.
Ouais.
Et après, il part à Johannesburg et puis il bat Ferrer.
Ouais.
Et il se retrouve en finale. Et il se trouve, je crois qu'à ce moment-là, il est, bah, il est, je ne sais plus, 70e mondial peut-être. Et nous, on avait décidé dans son programme d'aller à Tanger, sur Terre. Donc, il passe du dur au Terre. Et nous, on arrive, je ne sais plus, une semaine avant pour préparer le truc. Et il gagne le tournoi. Voilà. Et là, il se retrouve 61e mondial. Voilà. Donc, tu vois, moi, dans le bouquin, j'ai appelé ça « La porte s'ouvre » parce que c'est complètement dingue. Là, tu enchaînes, pendant 6 mois, tu enchaînes des trucs de, tu vois, de mutants, finalement.
Et on parle du palier mental du joueur qui accède au top 100, mais toi, ton palier mental d'être un coach qui a emmené un joueur dans le top 100, qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là ?
Moi, je m'en fous complètement de ça.
Totalement détaché ?
Bon, c'est même pas détaché, c'est que moi, je continue à vouloir avancer. Il y a un job à faire, il est 60, et jusqu'où il peut aller ?
Il n'y a pas un moment où tu te dis « putain, c'est quand même cool ».
Non, je pense que c'est avant, quand il est 108, en tant que coach, la responsabilité à ce moment-là est énorme. Et je me dis, peut-être que je le prive à jamais, parce qu'il y a des mecs qui sont restés 108 mondial. Donc, pour moi, la plus grosse prise de risque, elle est là. Tu vois, de me dire, là, à un moment donné, je me rappelle, je me dis, peut-être que c'est pas simple la décision. De lui dire, tu rentres, tu as mal sous le pied avec les médocs. Et si tu continues, peut-être que tu seras 100e mondial, mais tu ne pourras plus jouer pendant 6 mois ou peut-être plus. Ça va peut-être être grave. Là, mon choix, à ce moment-là, il est… Là, je me dis, peut-être que je le prive à jamais du top 100. C'est le seul truc que je me dis. Mais après, une fois qu'il y est, attends, mais moi, on part à Miami, joue Miami, passe un tour. Et on est sur le gros truc. Tout d'un coup, on vient du satellite et tout d'un coup, on se retrouve avec les plus grands joueurs du monde.
Et comment on te regarde?
Les Master 1000. Comment on me regarde? Je ne sais pas comment on me regarde. Honnêtement, je ne sais pas. Nous, on fait notre truc avec CF. On a toujours été tous les deux.
Ouais.
On me regarde. Je sais qu'à un moment donné, à Miami, quand il bat Beck, là, avant de jouer de Cilic, dans les tribunes, on est au mois de mars, là, tu vois. Et donc, il y a la Coupe Davis et il y a… les sélectionneurs à l'époque, Forget, qui est dans les tribunes. Voilà, c'est ça qui change. Mais, ouais. Mais nous, on en rigole. Il y a des journalistes qui disent, voilà, Steph, il est sélectionnable. Ouais, il est 60e, mais nous, on n'y croit pas une seconde. Et nous, on rigole. Nous, Steph, lui, pour lui, il était en BTS touriste. Donc, si tu veux, il venait, et il arrivait avec des raquettes sous le bras dans un sac en plastique à l'aéroport et tu disais, mais le mec qui est 60e mondial… À l'époque, il était chez Wilson et lui, il arrive avec des sacs plastiques. Bon, ben voilà. Si tu veux, comment tu veux, tu vas choper la grosse tête.
Et justement, dans Wheel of Tennis, là, une des interviews que j'ai trouvées, tu dis que Steph, derrière ses airs de touriste, c'est un vrai requin. À quel niveau on a un peu compris. Je pense que tout à l'heure, tu as dit que c'était un compétiteur né. Mais comment tu peux nous illustrer cette image-là?
C'est pas dur. C'est pas dur. En fait, il aime le sang et quand il y a du sang, il est très, très, très dangereux. C'est-à-dire que quand il sent que l'adversaire est en faiblesse, voilà. J'ai eu d'autres joueurs avant à l'entraînement et même à l'entraînement, quand les joueurs, si tu veux, à un moment donné, il y a une baisse de régime, beaucoup de joueurs, en tous les cas, ont tendance à arrêter de jouer, regarder ce qui se passe en face, etc. Lui, non. Lui, c'est vraiment la différence. Donc, il fait le baroudeur comme ça, mais je peux te dire que c'est un sacré compétiteur. Et à chaque fois qu'il y a eu des opportunités, il les a jouées à 100%. Et à chaque fois, il a ramené le truc, si tu veux. Tu vois ? Donc, c'est énorme. Il trompe son monde, je dirais. Mais des mecs qui ont été 50e mondial, il n'y en a pas tant que ça. Et ouais, c'est un sacré compétiteur. Mais à chaque fois, il a eu du mal à le supporter, ce côté compétiteur, justement. Et donc, du coup, il a essayé de… Ça lui allait bien, finalement, le baroudeur, de jouer ce rôle-là. Ouais. Mais son rêve, au fond de lui, c'était de réussir à jouer sur des grands cours et des grands mecs. Et ça a été son combat, très longtemps. Et quand il vient me rechercher en 2018, là, Ben voilà, c'est pour jouer des grands cours et des grands champions. Et quand on démarre et qu'il bat Anderson au premier tour à relance, voilà, ça fait partie de ces gros matchs.
Mais ça veut dire qu'il y a eu une coupure entre le moment là où il bat Beck à Miami et le moment où il vient te rechercher,
hein ? Ouais, il y a une grosse coupure.
Qu'est-ce qui a cassé à ce moment-là ? Pourquoi vous avez fait un break ?
Bah parce que ça a été. Bah, tu t'imagines, tu as 21 ans, tu es moins 30. 8 ans ou 9 ans après, tu es 60 mondial. Tu vois la déflagration du truc. C'est tout d'un coup, tu deviens une rockstar, quoi. Tu vois, tout d'un coup, tu intéresses les médias. Et lui, il ne voulait surtout pas de ça. Lui, en fait, son grand rêve, je pense qu'il aurait pu être 60e mondial et bien le vivre, mais il aurait fallu qu'il joue sur le cours 60 où il n'y avait personne et personne, voilà, et qu'il faisait son match parce qu'il adore le tennis, il adore la compétition. Mais tout d'un coup, le jugement des autres, ça, c'est un truc qu'il a pris en pleine gueule et qui a été compliqué à gérer.
C'est pour ça
de moins en moins par la suite.
C'est pour ça qu'il a fait le yo-yo et qu'il a disparu à chaque
fois. Bien sûr. Et donc, quand il s'est senti prêt, eh ben, il m'a rappelé en me disant, voilà, maintenant, je suis prêt à ce qu'on rebosse pour aller chercher des… Et c'est ce qui s'est passé.
La pause a duré 2 ans, c'est ça ?
Ah non, ça a duré plus que ça. 2010 ou 2011, 2018, je dirais. 7 ans,
ah
non ?
Ouais. Ah
oui. Ou je ne sais pas s'il y a eu un entre les deux, mais je ne pense pas, hein.
Et ça t'a fait mal, toi, d'arrêter à ce moment-là ?
Bah, ça m'a fait mal. Ça a été un moment où, de toute façon, moi, notre kiff à nous, si tu veux, c'était de progresser ensemble. Et là, tout d'un coup, je voyais qu'il ne pouvait plus le faire. Donc, c'était comme la première fois, peut-être pire, parce que y avait cette… Je te dis, il y avait ce sentiment de il ne jouait plus pour lui, tu vois ? Il ne jouait plus pour lui. Tout d'un coup, il était attendu, si tu veux. Et tout d'un coup, il n'a plus voulu. Tu sais, quand tu es top 60, que tu joues les Master 1000, bah, tu joues une semaine, tu joues Davidenko, une autre semaine, tu joues Federer, une autre semaine, tu joues Sampras, une autre semaine, tu joues… Bon, bah, ces mecs-là, tu les avais en poster il y a quelques années. Bah, tu es 60, OK, mais faut devoir les battre, ces mecs-là. Et je pense que l'ascension, elle a été compliquée à digérer et que finalement, c'est un truc qui est arrivé un peu sans s'en rendre compte, tu vois. Mais c'est là qu'il faut comprendre que le haut niveau, c'est très dur. C'est très, très dur. Voilà, c'est très, très dur. La gestion de… Parce qu'à la limite, avant, tu fais ton truc, tu as des gens qui te suivent, mais là, tout d'un coup, tu as les journalistes. T'as les réseaux sociaux qui sont arrivés, tu as tout ça et c'est pas simple.
Pendant ces 7-8 ans de break, est-ce qu'il y a des jours où tu disais putain, quel gâchis, on devrait être ensemble?
Non,
ensemble.
Non, jamais, jamais, jamais.
Ah oui?
Jamais, jamais. Ben non, ben moi, de toute façon, je vais te dire, il avait été 61e mondial déjà.
Déjà, c'est un miracle.
Moi, bah, je sais pas si c'est un miracle, en tous les cas. On avait travaillé et il l'avait été. Et on ne pouvait pas nous l'enlever, ça.
Et toi, pendant ce temps-là, tu développes la pédagogie Soyez Pro ?
Bah, moi, je prends 1 an et demi pour écrire, effectivement, pour coucher toutes mes expériences, toutes mes analyses. Je prends 1 an et demi, du matin au soir, à écrire. 1 an et demi pour écrire mon premier bouquin.
Sans bosser à côté, comme un sabbatique.
Sans bosser, ouais. Je fais 1 année et demie sabbatique.
Voilà. Et c'est quoi ta routine d'écriture à ce moment-là ?
Ah bah c'est le matin et l'après-midi. Je fais une sieste, je vais marcher et j'écris le matin et toute la journée. Je fais 7 heures par jour.
Waouh ! Avec Amphora, du coup et...
Avec Amphora, qui me fait confiance, qui me lance dans le grand bain et qui me dit bah, « t'as carte libre, t'as quartier libre ». Ils lisent ma préface, ils trouvent ça génial et ils me disent « banco, quoi ».
La préface, elle est de Cédric Pioline, non, c'est pas ça ?
Ouais, Cédric fait la préface, donc c'est génial parce que on était dans le même move, il avait compris le truc, j'ai trouvé ça top.
Comment t'as fait pour le convaincre ? Enfin, pour l'avoir, quoi ? C'est quand même un gage de… C'est un tampon, quoi.
Ah bah ouais, c'est un tampon. Comment ça s'est fait ? Est-ce qu'on s'est rencontré à ce moment-là? Je ne sais plus bien. Bah, lui, il jouait à l'époque. Je ne sais plus comment ça s'est passé.
Est-ce que c'est parce qu'il était sensible particulièrement au travail?
Ah, oui, bah, bien sûr, bien sûr. Je pense qu'on était assez proche du travail. D'ailleurs, quand j'entraînais Gilles, on l'a évoqué, je me rappelle, sur un match en Australie, là, au troisième tour pour Gilles. Il était assis à côté de moi et on a échangé beaucoup. Donc, c'est un mec que j'apprécie beaucoup et qui a vraiment travaillé lui aussi sur cet aspect-là.
Mais à cette époque-là, c'est que vous étiez potes, quoi.
Ah non, on ne peut pas dire ça. Non. Bah, je ne sais pas ce que ça veut dire être pote. Tu croises les gens, tu discutes avec eux. Est-ce que pour autant t'es pote? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, je ne sais plus, je ne me rappelle plus comment ça s'est fait l'histoire. Vraiment, j'ai plus. Mais en tous les cas, il écrit une belle préface et c'est sympa.
Et est-ce que tu sens que c'est ton CV de. Et ton succès avec Steph qui t'ouvre les portes chez Enfora?
Est-ce que c'est le succès? Ah ben bien sûr. Bah oui, forcément, le succès intéresse beaucoup plus, c'est clair. À l'époque, il n'y a pas grand-chose qui s'écrit en pédagogie un peu différente sur le tennis. Est-ce qu'aujourd'hui même, il y en a, toi? Je ne suis même pas sûr. Moi, j'ai écrit vraiment une pédagogie pour les enseignants, donc… avec des exercices, avec en les faisant réfléchir et tout. Donc, et puis ce bouquin, il a été très bien accueilli. Donc, ça a été génial. Ça a été génial parce que tu écris un bouquin, puis tu te dis, bah, ça se trouve, moi, j'ai été à 15-2, je suis prof de club. Est-ce que ça va intéresser du monde? Et au final, ça a été un vrai succès. Il a été réédité. Et puis, il y a eu ce qui est fabuleux, c'est que la première image sur le premier bouquin, c'est Jeff Bachelot, qui fait un plongeon. Cette photo, elle a été, c'était la photo qui avait été nommée plus belle photo de sport en Espagne. Et puis la deuxième où c'est Steph qui, c'est Steph. Donc voilà, je trouve que c'est sympa le clin d'œil, tu vois.
Yes.
Je suis sensible à ça.
Ouais. Et pas trop compliqué d'accoucher de ce bouquin. On sait qu'il y a toute une phase de relecture, de rentrer dans un format, dans des cases, tout ça. Enfin, je veux dire, ça a été un accouchement assez facile. Et derrière, tu as dit que tu avais bien converti. Donc, c'est chouette, ça s'est bien vendu. Et c'était pas trop compliqué, ce process-là?
Ben moi, il n'y a rien de compliqué, en fait, dans ma vie. Puisque je vais te le dire. Moi, je te le dis depuis tout à l'heure. Ma vie, c'est un rêve éveillé. Si tu veux, tu es prof en club. Je suis prof en club. Je forme un mec à -4. Après, j'entraîne un mec qui est champion de France. Après, je forme un mec qui est top 60. Puis après, j'écris un bouquin. Si tu veux, si on m'avait dit ça quelques années avant, j'aurais dit je signe des quatre mains. S'il n'y a pas quatre mains, il n'y a pas de quatre stylos, je signe tout de suite. Non, mais tu vois, je veux dire, moi, j'ai des choses à dire. J'ai envie de partager. Je l'écris. Et puis, point à la ligne. C'est comme avec Steph, quand tu me demandais si ce n'était pas… Bah non, moi je suis habité, j'aime ce que je fais et je fais que ce que j'aime. Bah, si tu veux.
J'avais justement une autre question tout à l'heure quand tu m'as dit que tu avais 38 piges parce que c'était 10 ans après l'obtention de ton BE. C'est impossible de construire une vie de famille en parallèle quand tu es avec Steph sur le circuit toute l'année.
Ouais, mais ce qui était bien avec Steph, c'est possible, mais ce qui était bien avec Steph, c'est que c'était un mec libre et j'avais pas besoin d'être tout le temps là. Donc des fois, on faisait des tournées où je faisais deux semaines. Puis la troisième semaine, il la faisait tout seul. Ou des moments où il allait tout seul en tournant. On a essayé plein de choses, en fait. Parce que tu sais, c'est une question importante. On pense que parce qu'un coach va aller avec le joueur, alors le joueur va mieux performer. Mais nous, on s'est posé beaucoup de questions avec Steph là-dessus. Est-ce que c'est vrai? Bah, c'est pas aussi clair que ça. Parce que des moments, le coach, il va te mettre la pression. Alors que le joueur, il a envie d'être libre. Donc, nous, on a fait plein d'essais. Donc, moi, je ne voyageais pas énormément non plus. Hein. Toi, c'était pas dingue. Il y a eu plein de moments où c'était génial pour ça. C'est Steph, moi, je lui faisais confiance. Des fois, il me disait… puis après, il y avait une histoire d'argent. Hein. Après, par contre, quand il est monté top 60, il a voulu que j'y aille tout le temps. Voilà, ça, c'est clair.
Ce qui est quoi? Il avait besoin d'être rassuré? Voilà.
Ah, bah, il sentait que déjà, en face, il y avait des écuries hein, là. Si tu veux, quand tu vois les clans quand tu es dans les Mastermill ou les 500 ou les bah voilà, il y a t'es pas tout seul quoi. T'es pas que avec ton pote Michel quoi. Ça suffit plus. C'est bien, mais ça suffit pas. Les mecs, ils ont pas que leur pote Michel. Ils ont des gens qui donc voilà, et lui, il savait Steph que il fallait de la compétence à ce moment-là. Tu vois?
Est-ce qu'il est arrivé à Steph de partir en tournoi et de demander à son pote Michel de l'accompagner?
Bah, tu sais, t'as oui, bien sûr. Et à un moment, il voyageait avec des copains, de temps en temps, ça lui arrivait, bien sûr. Bien sûr. Mais à un moment donné, sur le Grand Chelem ou sur les Grands Prix, sur le grand circuit, c'est une telle exigence et c'est un tel niveau. Si tu veux, faut quand même c'est deux mondes. Si tu veux, tu montes les marches, quoi, tu vois, le futur entre les futurs, où ça peut être la colonie de vacances par moment. Il faut vraiment faire très attention à ça. Mmh. C'est l'aventure, parce que tu vas à l'autre bout. Moi, nous, on a fait des trucs en Ouzbékistan où tu fais 8 heures de taxi, par exemple. Tu vois. Mmh. Tu fais toute la nuit, tu traverses le truc. Nous, on a fait des trucs de malade. Moi, j'ai fait un mois en Ouzbékistan. Tu vois, donc, si tu veux, voilà, quand tu fais des trucs comme ça. Puis après, en Challenger, tu es quand même plus proche d'une grande ville, même si tu bouges. Puis après, quand tu es dans les gros tournois, bah, c'est plus l'aventure. Tout est fait pour toi, pour la performance. Les terrains d'entraînement, tu as du monde. Tu as des sparring si tu veux. T'as les hôtels, c'est de dingue. Tu vois bien. Mmh. Tout est fait pour la performance. Donc là, c'est bah, là tu rigoles plus. Quoi. Toi, quand tu t'entraînes, bah, tu t'entraînes avec Murray, il y a 2000 personnes. Mmh. C'est jamais cool. T'es pas dans ton coin. Voilà. Donc, j'allais dire que c'est une adaptation et un vrai changement, tu vois.
Il faudrait qu'on prenne la nuit pour que tu nous racontes toutes tes anecdotes en Ouzbékistan et aux quatre coins du monde. Mais... Ah oui. Et ça veut dire, donc tu m'as dit que vous raccrochez les wagons en 2018. Lui, quand il bat Berdych à Roland-Garros, c'est 2016, il me semble.
C'est pas 2012? Non, c'est 2016?
Je crois que c'est 2016. Je peux vérifier très rapidement là. Ouais.
Non, si c'est pas 2012, moi. Non?
Attends, je sais pas, je regarde.
Moi, je dirais plutôt 2012.
Ok. Donc, ça veut dire que 2012, vous étiez plus ensemble.
On s'entraîne plus ensemble. Ouais, on s'entraîne plus ensemble.
Donc, l'un ou l'autre, que ce soit 2012 ou 2016, le temps que je retrouve.
Ouais,
comment tu vis cet exploit de loin, toi?
Bah, moi, je suis super content pour lui. Et en même temps, si tu veux, à ce moment-là, moi, j'ai plus envie de ça. J'ai plus envie de coups. J'ai envie que le travail qu'on a fait, discipline, parce qu'il y a une vraie discipline de la performance pour ouais. performer en tous les cas. Moi, j'ai envie qu'il s'installe, j'ai envie de stabilité. Et moi, je suis super content pour lui, mais je ne veux pas que ça soit un feu de paille, tu vois. Mmh. Et donc, c'est des coups, tu vois. Et moi, il y a un moment donné, j'ai envie d'un travail de profondeur, j'ai un travail de tu vois. À ce moment-là, je ne suis plus dans… Il est monté top 60. Il est redescendu, je ne sais plus quand il fait cet exploit. Bon, c'est super, mais moi maintenant, j'ai aussi une exigence qui a changé. Enfin, 2016, nous, on reprend juste on en parle avant l'Italie,
ouais.
juste avant qu'il joue donc ce match contre Joko, là.
Ouais.
Et puis, il me dit, bah voilà, je finis l'Italie, là, et il est 90 ou 100e mondial ou pas loin, tu vois, à ce moment-là. Et il me dit, voilà, je me sens prêt à retravailler. Et voilà. Et on démarre à Roland. On se fait une semaine d'entraînement de malade. Et c'est comme si on s'était jamais quitté.
C'était incroyable.
Tu vois, non, mais c'est un truc de malade. Et puis, et ça match tout de suite. Nous, si tu veux, la difficulté qu'on a eue pendant très longtemps avec Steph, c'est d'échanger. C'est quelqu'un qui est un peu secret, qui a du mal à se livrer. Et là, et c'est pour ça qu'on a arrêté. Et là, il me dit, je suis prêt à échanger, je suis prêt vraiment à ce que… Voilà. Et là, on vit une semaine de malade, on s'entraîne, mais on fait des trucs de dingue. Et là, il bat Andersen, un des matchs les plus accomplis.
Et quand puis tu derrière… Dis, quand tu dis on fait une semaine de malade, on fait des trucs de dingue, ça ressemble à quoi? Tu peux nous donner des exemples?
il se ressent beaucoup sur lui. On fait des choses, par exemple, de monter des marches une par une, deux par deux, trois par trois, les yeux fermés, au ralenti, pour vraiment sentir ce qui se passe. On fait plein de trucs, des trucs qu'on faisait avant. On retravaille le service parce que ce service, il a changé 60 fois de service. Mmh. Tu vois, c'est un des coups, ça. On pourrait en parler des heures, mais nous deux, avec Steph, on peut être capable d'en parler encore deux heures en disant, aïe, j'ai trouvé. Bon, et donc on stabilise des trucs pour que ça tienne la route. Voilà, à un moment donné, je ne sais plus. Je lui demande de servir avec une balle, je crois. Et puis, le jeu, je crois que c'est de faire 20 balles sans faire une seule faute. Je crois que c'est ça le deal. Et il est comme un dingue. Il y arrive et tout. Et on rigole. Voilà. Donc,
très bon,
c'est
ça.
Génial. Et puis, voilà.
Dès qu'il est venu te rechercher en 2018, il a eu besoin d'apporter des arguments un peu comme la liste que tu avais fait à Pat Mouratoglou ou tu étais chaud d'emblée?
Ah ouais, moi je suis chaud d'emblée, ouais. Okay. Tu veux dire par rapport au fait qu'on soit arrêté?
Oui, et puis de retourner sur le circuit, qui n'était plus forcément une vie dont tu avais, je sais pas où tu en étais à ce moment-là, mais est-ce qu'il a dû te convaincre particulièrement, quoi?
Non. Non. Mais non, le mec, moi, Steph, à partir du moment où il vient me dire Renan, je suis prêt, moi aussi je suis prêt. On n'a pas fini.
À la vie, à la mort, Steph.
Mais je sais pas si c'est à la vie, à la mort. En tous les cas, c'est. Le mec vient te chercher en te disant « j'ai envie de bosser avec toi ». Je veux dire, qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce qu'il y a de plus beau ? Qu'est-ce qu'il y a de plus beau ? Tu vois, pour un coach. Et puis, je veux dire, les moments de séparation, quand tu démarres avec un joueur, tu sais que ça va s'arrêter. Tu sais que ça va s'arrêter. Ça fait partie de notre job. Il y a Sam qui disait « je me lève le matin, je ne sais pas si ça… » Mais voilà, mais l'instabilité de notre job, c'est ça. Et si tu ne le comprends pas… C'est une règle du jeu. Voilà. En tous les cas, pour des coachs privés dont j'ai cité le nom. Voilà. C'est comme ça que ça se passe.
Sam, il dit, au début, c'est lune de miel. Et après, il y a la merdasse qui arrive. Et c'est ta capacité à gérer la merdasse.
Ouais, alors moi, je sais pas ce que. La merdasse, je ne sais pas si. Ouais, je dirais pas ça.
Tu le formulerais comment, toi?
Ben, je dirais que nous, coach, notre job, c'est de challenger et de pousser le joueur tout le temps. Voilà. Ça, c'est quand même ça. En tous les cas, moi, c'est l'idée que je me fais. Comme moi, je ne sais pas, je l'écoute, je le challenge, je lui pose des questions, je le fais réfléchir pour que lui trouve des solutions. En fait, c'est ça mon job. Mais il y a un moment donné, tu pousses. Et à un moment donné, le joueur, il peut être en rupture de ça. Donc forcément, nous, ben, en tous les cas, moi, dans le coaching que je propose, je ne suis pas loin de la rupture tout le temps. Je vais chercher cette rupture pas loin. Donc forcément, ben, y a un moment donné, il y a des clashs. Puisque moi, je vais la provoquer, ça. Je vais le provoquer finalement. Ça fait partie de mon jeu. Donc, il y a un moment donné, ben, on s'engueule. Il y a des décisions à prendre. Il y a des clashs. Il y a des moments où ça s'arrête. Mais voilà, c'est pas… si tu veux, ce n'est pas comme si… Je travaillais qu'un joueur et puis j'étais passif. Et puis je me disais, si je ne dis pas ça, si je dis ça, il va peut-être partir. Moi, je m'en fous qu'il parte. Moi, j'ai un job à faire. Tu vois, je ne suis pas là pour enfiler des perles. Je suis là pour bosser et avancer. À un moment donné, ça n'avance pas. À un moment donné, ça n'avance plus. À un moment donné, le joueur, il ne veut plus. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse ? Je ne peux rien. Tu comprends ? Et pourtant, c'est le joueur qui te paye, mais moi, je m'en foutais de ça. M'en foutais. Moi, j'avais un job à faire. Lui, il me payait pour ça et pour performer. C'est inhérent à notre job.
Merci, Ronan, pour cette première partie et merci à toi, jeune légende, d'être au rendez-vous comme à chaque fois ou pour la première fois. Qui sait ? Viens me dire en commentaire ce que tu as pensé de cet échange. J'adore vous lire, ça motive comme jamais et ça permet au contenu d'être mis en avant grâce au meilleur référencement. Alors surtout, ne te bride pas et balance tout ce que tu as. Mais aussi 5 étoiles sur Apple Podcasts et un commentaire, un avis sympa. Je le répète à chaque fois, mais c'est hyper important pour nous. Vraiment, la survie du podcast en dépend. Ça prend 2 secondes. Ne lésine pas sur cet effort. Voilà. Un grand, grand merci à Antoine et Lionel pour vos derniers tips sur la plateforme Tipeee. Parce que tu peux aussi nous soutenir à hauteur de 3 €, soit un antivibrateur, par exemple, par mois ou plus si le cœur t'en dit.
Chaque épisode représente plus de 10 heures de taf. On a maintenant les hors-séries et on se creuse au quotidien pour te régaler. Alors pareil, fonce. N'hésite plus et fais chauffer l'ACB. En parlant de ça, on a sorti notre quatrième masterclass d'une heure avec Gilles Tarracois, prépa mental et sophrologue qui a bossé pour la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes aux côtés de Gilles Moreton, actuel président de la FFT. À travers ce nouveau cours d'une heure, Gilles nous fait une initiation à la sophrologie où je vous sers de cobaye. Vous n'avez plus qu'à lancer l'audio, la vidéo et suivre le son de sa voix pour poser votre respiration et gagner en sérénité sur le cours. Cette nouvelle masterclass va te permettre de mieux gérer ton stress en match, en compétition, dès que tu fais des points. Ça va également te permettre de gérer la peur de gagner quand la victoire est au bout de ta raquette et de reproduire le niveau de jeu de l'entraînement en jouant aussi relâché en match. Tu vas donc apprendre à te servir de la respiration pour gagner en relâchement et en plaisir sur le cours, c'est tout bénef. T'as accès à ce nouveau cours au format audio et vidéo et je t'ai également concocté un support écrit pour le suivre. Pour t'abonner et recevoir une nouvelle masterclass tous les 15 jours, t'as un lien juste en dessous en description. Et si tu veux avoir accès à un seul cours en particulier, c'est aussi possible, il suffit de m'écrire à max@tennislegende.fr. Si tu veux un exemple de cours gratuit qu'on a enregistré en ligne, t'as les 4 secrets de statisticien enregistrés avec Fabs Barrault, qui travaille pour Gilles Servara, le coach de Daniil Medvedev. Tu vas grimper au rideau grâce à la stat en comprenant mieux que jamais ton style de jeu. Enfin, si tu veux nous suggérer des idées, des partenariats ou autres, viens me le dire sur LinkedIn à Max Zamora, Zadaemoera, ou sur Insta à Max Emia, E-E-T-Mia, Emia, le tout attaché. C'est toujours très très cool d'échanger et je réponds à tout le monde. J'essaye de vous concocter un hors-série business et organisation cette semaine sur le Challenger de Brest avec Arnaud Clément pour nous en parler. On croise les doigts, c'est pas encore fait. Alors envoyez-moi des bonnes ondes. D'ici là, je vous dis à très vite et prenez soin de vous les légendes. Ciao.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.